Derrière la magie du sport de haut niveau se cache une triste réalité d'athlètes malmenés et abusés. Et pour que ça cesse, il faut en parler.
Avec Jean-Luc Brassard, l'envers de la médaille. Mardi, 20h, sur la chaîne Témoin. Débrouillez dès maintenant.
Gardez le nez dans vos affaires. Avec Simon Philibert. Pour savoir et comprendre l'actualité économique qui touche votre portefeuille, à vos affaires, en balado sur l'application Cube et le site cube.ca, section radio.
IGA est fier de présenter À vos affaires. Découvrez les offres de la circulaire à IGA.net chaque semaine. IGA, vive la bouffe et les bonnes affaires.
Parce qu'en immobilier, faut être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
Cube Radio. Yasmine Abdel-Fadel. Une animatrice hors norme, aussi percutante que l'actualité. Grande stratège, elle décortique les messages et analyse les non-dits. Méthodique, elle regarde chaque détail à la loupe.
Cube Radio. Cube Radio.
Surprenante, improbable, décapante. Elle ne laisse personne indifférent. Yasmine Abdel-Fadel.
Bienvenue en Absurdistan. C'est ce que le gouvernement fédéral nous dit quand on foule les bureaux de poste de Passeport Canada. Bienvenue en Absurdistan. C'est fou. C'est vraiment fou. On nous casse les oreilles là sur l'importance de protéger nos données personnelles. On nous répète ad nauseam. « Hey, il faut pas laisser traîner nos documents confidentiels. Hey, cache ton NIP, cache ton passeport, ton numéro d'assurance sociale. Faut que personne voit ça. » On nous fait des publicités. « Hey, toi et chose, le vol d'identité, le vol de données. Tu vois le gouvernement déchirer sa chemise sur les entreprises qui subissent des cyberattaques et qui subissent des vols de données et qui compromettent certaines données confidentielles de leurs clients. » Ils les traînent en commission parlementaire pour leur dire c'est quoi vos mécanismes de protection des données, c'est quoi les efforts que vous faites pour protéger les données du monde. Expliquez-nous, vous avez un devoir comme citoyen corporatif que de protéger les données de vos clients. Ah là, ils sont bien bons pour donner des leçons, ils sont forts, et ils sont forts, nos gouvernements, pour donner des leçons aux entreprises privées. Faut protéger la confidentialité des données des citoyens. Ben oui. Qu'est-ce qu'ils font en ce temps-là? Cordonniers mal chaussés. Ils envoient des documents confidentiels aux mauvaises personnes par Poste Canada. Imagine, tu reçois chez vous, là, une belle petite enveloppe en ton nom, là. C'est ton nom qui est sur l'étiquette. Pas le nom de quelqu'un d'autre, ton nom. Il est sur l'enveloppe. T'ouvres l'enveloppe. Qu'est-ce que tu trouves là-dedans? Passeport de quelqu'un qui habite Edmonton, certificat de naissance, sa photo, certificat de citoyenneté d'un immigrant qui vient de devenir canadien, puis ce papier-là, là, il est tellement important, le certificat de citoyenneté. C'est avec ça qu'il fait ses passeports, c'est avec ça qu'il fait tout comme nouveau canadien. Mais c'est toi qui le reçois, avec une enveloppe en ton nom. Puis là, je vous vois aller, je vous entends déjà. J'ai des petites voix qui me disent que vous vous dites ça dans votre salon. Ben voyons, Yasmine, ça peut arriver une erreur. Ça peut arriver une erreur humaine où on met les mauvais documents dans la mauvaise enveloppe puis qu'on envoie ça par Poste Canada. Puis je suis d'accord, ça arrive. Puis on fait toutes des erreurs. Puis l'erreur est humaine. Puis on n'a pas de problème. Sauf que là, c'est pas une fois, c'est pas deux fois. On l'apprend au Journal de Montréal, il y a cette famille-là. Le député conservateur Joël Godin, il a récupéré des passeports canadiens d'une famille d'Edmonton. D'une famille d'Edmonton, imaginez. Ça, c'est le bureau de Passeport Canada qui a envoyé ça. 3 passeports qu'il a reçus. Pourquoi il les a reçus? Parce que la famille qui les a reçus à Québec se sont dit, ben, voyons donc, ça n'a pas d'allure. Faut aller porter ça quelque part. On va aller le porter chez notre député. Puis là, ce matin, on lit ça. Puis il y a notre collègue Marc-André Leclerc qui relate que lui-même a reçu une enveloppe au nom de sa fille qui est à la garderie. Il l'ouvre, ben c'est le certificat de citoyenneté d'un nouveau Canadien d'Edmonton. Et devinez quoi? Il s'est présenté dans un bureau de Passeport Canada pour leur dire « Hey guys, j'ai reçu ces documents-là, il y a probablement eu une erreur, je voulais pas juste les mettre à la poubelle ou les envoyer par la poche, je suis venu vous les porter. » Ils l'ont fait attendre 45 minutes. Ils l'ont fait attendre 45 minutes pour prendre des documents qu'il lui a envoyés par erreur alors que quelqu'un pense que ces documents super confidentiels, super précieux, sont bien cachés, sont bien traités à Passeport Canada. Moi, je veux pas être ce client-là, je veux pas être ce contribuable-là qui a appelé Passeport Canada, qui a attendu des heures durant et qui lui ont dit « Ah ben non, on vous les a envoyés par la poste. Alors, c'est écrit dans notre système que c'est envoyé à partir de ce moment-là, nous, on n'est plus responsables. » Et n'eût été de notre collègue Marc-André Leclerc qui a décidé de prendre son courage, sa patience et quelques minutes de son temps, 45 minutes pour être plus précis, puis de se pointer dans un bureau de Passeport Canada, il aurait pu les mettre à la poubelle comme un autre, comme n'importe quelle autre personne. Et ce citoyen-là, qui attendait par la poste l'arrivée de son passeport ou de son certificat de citoyenneté, les aurait jamais reçus. Et Passeport Canada s'en serait lavé les mains, comme si de rien n'était. Et c'est ça l'absurdiste, c'est ça qui est ahurissant. C'est qu'on se demande pourquoi c'est toujours le citoyen qui doit payer pour les erreurs des autorités gouvernementales? Comment peut-on faire confiance à la machine gouvernementale, à Passeport Canada, quand on leur donne nos documents originaux? Faudrait-tu les donner les copies conformes? Faudrait-tu certifier les copies conformes et le leur envoyer? C'est une question, parce que s'ils ne sont pas capables de gérer les originaux, si cela contribue au vol de données, à la perte de documents précieux, il va falloir réfléchir à cette question-là. Il faut surtout réfléchir à l'imputabilité de Passeport Canada. Est-ce que quelqu'un est responsable de Passeport Canada? Est-ce que quelqu'un est capable de se mettre devant les caméras, devant les micros, devant la population et répondre aux questions de la population? Quelles sont les directives, quelles sont les procédures pour, un, s'assurer qu'on ait des services, deux, assurer notre confidentialité et la confidentialité de nos documents? Aujourd'hui,
Yasmine Abdel-Fadel.
Pour nous rejoindre en studio,
studio à commercial cube.radio. Appelez ou textez
187 cube radio.
1877 827 2346.
Ceux qui me connaissent connaissent mon amour pour le McDo, puis j'ai découvert ce matin dans le Journal de Montréal qu'il y a quelqu'un qui vit mon rêve. Qui vit littéralement mon rêve à ma place. Elle s'appelle Audrey Bernard, c'est une femme d'affaires de la Montérégie et devinez quoi? Elle détient 9 franchises McDonald's à travers plusieurs villes de la Montérégie et elle est avec nous. Bonjour, Madame Bernard.
Bonjour, ça va bien?
Ça va très bien. Dites-nous, comment se fait-il que vous avez réussi à avoir dans votre portefeuille 9 succursales de McDo quand on sait que c'est tellement déjà difficile de mettre la main sur une?
Ben, en fait, oui, j'ai fait ma première acquisition de 4 restaurants en août 2021, puis en décembre 2022, j'ai fait l'achat d'un 5e restaurant. Puis au 1er février, 4 autres restaurants McDonald's qui sont venus s'ajouter à notre collection. Donc, ça fait près de 2 ans que je suis franchisée McDonald's. On peut dire que c'est une croissance relativement rapide. Je pense que c'est un amalgame de circonstances qui ont fait que les astres se sont alignés pour moi, puis j'ai été capable, dans le fond, de grandir rapidement dans ce système-là.
Est-ce que c'est facile de devenir franchisé de McDonald's ou c'est difficile puis il faut passer par plusieurs étapes?
Je dirais pas que c'est difficile. Là. Je pense que quand tu as la volonté de devenir entrepreneur, là, que ce soit indépendant ou dans un système de franchisage, puis que tu es passionné puis intéressé, je pense que tout est possible. Dans mon cas, mes parents, moi, avaient été franchisés pendant 25 ans. Donc, j'ai repris l'entreprise familiale. C'est pas plus facile, ceci étant dit, quand tu es une deuxième génération. Là. Je pense que ça vient avec des pours et des comptes. Mais c'est un cheminement. Donc, tu appliques comme tout le monde, tu fais tes cours, tu as quand même un accompagnement qui est quand même assez rigoureux là pour te mener au jour J, qui est de prendre possession de tes franchises. Mais non, je dirais pas que c'est difficile. C'est un processus, mais comme n'importe quel autre job dans la vie là.
On a l'impression que c'est les franchises comme celle de McDo sont un peu inatteignables. Tu sais, c'est trop gros, c'est trop cher, c'est trop important, et que ça requiert de connaissances accrues dans le domaine de la restauration. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est plutôt c'est un moyen de devenir un homme, une femme d'affaires et de gérer principalement des opérations.
Non, je pense que c'est vraiment, oui, c'est, effectivement, c'est de gérer des opérations dans le quotidien. Là, c'est pour ça qu'ils appellent ça owner operator, dans le fond, en anglais. Là, donc, moi, je gère des opérations dans le quotidien. Ensuite, non, pour répondre à ta question, non.
Et vous dites, vous êtes à la tête de 9 succursales, on le disait, mais c'est 1000 employés. Comment on gère, dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, des succursales qui requièrent autant d'employés?
Ben écoute, la pénurie de main-d'œuvre, c'est sûr qu'elle est réelle. Là, c'est un vrai casse-tête dans le quotidien pour moi, puis pour, je pense, n'importe quel entrepreneur. Par contre, je pense qu'il faut être optimiste puis penser un peu outside the box dans ce contexte-là, là, qui changera pas de sitôt, là, malheureusement. Donc, dans mon organisation, moi, j'ai vraiment structuré l'entreprise là, par département. Donc, si on parle de pénurie de main-d'œuvre, ben pour remédier à ça, j'ai 3 personnes, dans le fond, qui travaillent à temps plein en ressources humaines. Donc, 2 personnes qui font uniquement de la dotation. Et puis une conseillère aussi là qui fait de l'immigration entre autres, mais aussi tout ce qui touche le disciplinaire. Ensuite, je pense que ta culture d'entreprise, c'est aussi hyper important là, d'avoir des climats de travail qui sont sains, sécuritaires, puis amusants. Là, tu sais, faut avoir du plaisir aussi, je pense, dans le quotidien. Puis avoir une marque employeur forte aussi. Là, moi, j'aime bien mettre mes gens de l'avant, les faire briller, de leur donner de la reconnaissance, de m'impliquer aussi dans mes collectivités, parce qu'à la fin de la journée, c'est tes clients, c'est les gens qui vont venir travailler chez vous. Donc, puis aussi le fait qu'on est dans un contexte de changement continu. Donc, l'idée pour moi, c'est d'avoir une structure organisationnelle qui s'adapte, qui est quand même assez flexible pour faire face, entre autres, à cette pénurie de main-d'œuvre-là.
En parlant de pénurie de main-d'œuvre et vous parlez de milieu sécuritaire, on sait que la restauration rapide, McDo en particulier, constitue souvent un premier emploi pour bien des jeunes secondaires. Là, tu sais, c'est la première fois qu'ils occupent un emploi. On a vu aussi, on a beaucoup parlé des jeunes adolescents qui vont travailler dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre. Comment vous, vous voyez ça de votre réalité?
Ben moi, j'adore travailler avec les jeunes. Je pense qu'en tant que gestionnaire, on a une grande responsabilité de les former, de les encadrer, ces jeunes-là, qui effectivement sont alors souvent premier emploi. Oui, je pense que c'est important de leur offrir une expérience de travail qui est assez complète, puis de les accompagner là-dedans, là, du mieux possible, les outiller. C'est aussi nos gestionnaires de demain, là, on se le cachera pas. Donc, c'est important, je pense, de repérer les talents, de les faire cheminer dans la structure. C'est sûr que tous ne feront pas nécessairement carrière chez nous, mais si je peux semer, moi, en tant qu'entrepreneur puis gestionnaire, une graine de gestionnaire ou de futur entrepreneur en eux, ben ce sera déjà ça de gagner. Là.
Mais on parle d'encadrement du nombre d'heures travaillées pendant la semaine chez les jeunes, là, disons, de 13, 14, 15 ans. Ces jeunes-là, de plus en plus, c'est décrié le fait qu'ils travaillent de manière plus régulière ou occupent des emplois sur des chaînes de restauration. Est-ce que vous pensez qu'on doit encadrer de manière réglementaire le travail des jeunes de 12, 13, 14 ans?
Ben, tu sais, je vous rassure tout de suite. En tout cas, dans mon entreprise, c'est quelque chose qu'on prend vraiment au sérieux. Puis nous, on encourage, tu sais, dans la poursuite des études. Là, je pense que surtout quand tu as cet âge-là. Là, premièrement, moi, j'engage pas en bas de 14 ans. Fait que déjà là, donc, tu sais, je peux pas vraiment répondre pour les autres qui le font. Nous, avant 14 ans, on n'engage pas. Puis ceux qu'on engage de 14 ans, ben comme je vous dis, c'est vraiment là de promouvoir puis de favoriser dans le fond la poursuite des études. On a un paquet de programmes là, de bourses scolaires entre autres dans l'organisation là, qui est mis de l'avant. Et puis ça, c'est quelque chose qu'on pousse beaucoup. Après, comme je vous dis, je ne peux pas vraiment répondre pour ceux qui le font d'engager du 12-13 ans, parce que moi, je le fais pas.
Je comprends. Merci beaucoup, Audrey Bernard. Vous êtes à la tête de 9 franchises McDonald's à travers la Montérégie. C'était très inspirant de vous écouter.
Merci.
Des analyses sur le monde sans frontières. Savoir et comprendre l'international. Guillaume Lavoie.
Guillaume, Donald Trump nous dit déjà qu'il pourrait être arrêté dès demain. On dirait qu'on s'y attend, mais on ne sait pas si c'est vrai, si c'est pour nous faire peur, si ça va vraiment arriver. Est-ce qu'on risque de voir Donald Trump menotté demain, Guillaume Lavoie?
Allô, Yasmine. J'y crois peu. D'abord, il faut savoir à qui profite le crime. Et là, je ne parle pas du crime pour lequel il pourrait être arrêté. Mais cette idée d'aller lui-même dire sur ses médias sociaux, c'est terrible, on se prépare à m'arrêter. Et là, le « on », expliquons-le, là, c'est codé pour dire les démocrates, les institutions corrompues, la justice corrompue au service de velléités partisanes s'apprête à s'en prendre à moi. Traduction, s'apprête à s'en prendre à vous. Venez à ma rescousse, venez à notre rescousse, manifester et en passant, envoyer de l'argent aussi, hein, parce qu'il va falloir que je me défende.
Là. Mais es-tu riche ou pas riche?
Yasmine, quand... Ben, ça dépend. Si on demande à son comptable ou si... C'est comme dans le temps, là. Il y a 3 bilans hein, d'entreprise. Il y en a un pour les actionnaires, il y en a un pour le syndicat, puis il y en a un pour le gouvernement. Dans le cas de Trump, là, c'est pas clair. Même que certains ont dit que quand il demandait à ses comptables combien je vaux, il donnait un chiffre, puis il disait non, c'est pas assez, on va arrondir à la hausse pour que ça ait l'air plus. Alors là-dessus, combien il vaut exactement, je le sais pas. Probablement que c'est moins qu'il le dit. Mais comme dans beaucoup de choses dans le monde de Trump, la vérité n'est pas exactement un barème immuable. Ça peut bouger. Mais tu sais, quand le FBI était allé saisir Manu Militari des documents chez lui, il avait transformé ça en campagne de financement, « Venez m'aider pour me défendre », et il avait ramassé plus de $1 million. Alors, c'est le caractère du génie maléfique du monde Trump de transformer en opportunité commerciale et politique le contexte général de mécontentement. C'est ce qu'il fait ici.
Mais la question à savoir, si on va dire que cette arrestation va avoir lieu demain, là, puis que toutes les caméras du monde vont diffuser des photos de Donald Trump accompagnées par la police. Est-ce que ça va l'aider ou lui nuire dans la course à l'investiture au Parti républicain?
Mais d'abord, je suis pas sûr que ça arrive, là, qu'il soit arrêté comme ça. Mais si jamais ça arrivait, je pense que ça l'aide. Parce que quel est le modèle d'affaires de Trump? C'est d'avoir un contexte chaotique et de faire du millage là-dessus. C'était ça avant. Il y a quand même un caractère teflon, là, renforcé, là, chez Trump. C'est le candidat dont il y avait des enregistrements où il disait des choses obscènes sur des femmes. Où il disait presque à la blague, ben, c'est correct, quand t'es célèbre, tu peux faire tous les attouchements que tu veux, c'est pas grave. Toutes les règles traditionnelles, pas juste de la bienséance, là, mais qui s'appliquent normalement au monde de la politique, ont pas l'air de s'appuyer au monde de Trump. Mais il a construit son modèle politique là-dessus, avec des demi-vérités, en amplifiant des conspirations, en appelant même à l'insurrection contre le gouvernement américain. Ici, c'est un peu comme Coluche disait, là, dire, pour qu'un produit cesse d'être vendu, il faudrait que les gens cessent d'en acheter. Mais ça marche. Il n'y a pas besoin que tous les Américains soient d'accord avec lui. Le monde MAGA, c'est quand même beaucoup. Et Yasmine, le fait qu'il se pose en victime d'une politisation extrême du système judiciaire, ça a forcé les Républicains, il y a un paquet là-dedans qu'ils n'aiment pas particulièrement, là, Mike Pence, M. McCarthy, à prendre sa défense. Et il a réussi, lui et ses sbires, à dire « Si vous n'êtes pas tout de suite aux premières loges en train de défendre Trump, vous êtes des ennemis du parti. Vous êtes des faux républicains. » Et là, le code, et là déjà ça circule, comment ça se fait que DeSantis dit rien? Ben, ça doit être parce qu'il est complice. Ça doit être parce que c'est pas un vrai de vrai. Donc, il réussit un coup politique, même si, on pourrait dire, assez exécrable, assez dégoûtant, particulièrement efficace, jusqu'à maintenant en tout cas.
Mais on parle beaucoup de l'arrestation de Donald Trump, puis tout le monde pense que l'arrestation c'est pour des questions de corruption ou pour la question des documents illégaux qu'il avait gardés chez lui puis que le FBI avait été allé chercher. Mais il s'agit ni de l'un ni de l'autre. Personne ne parle des raisons pour lesquelles il serait arrêté. Rappelle-nous pourquoi il serait arrêté.
Alors, ça, c'est assez particulier parce que quelqu'un d'ordinaire, vous lui dites, bon, comment ça va, les nombreuses enquêtes contre toi, puis les gens vont dire, OK, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui vont dire, mais de laquelle est-ce que tu parles? Parce que pour Trump, il y a celle des documents cachés, non divulgués en Floride.
Oui.
Il y a celle de l'insurrection contre le gouvernement américain. Il y a celle qui, je pense, est de loin la plus sérieuse en Géorgie où il appelait en disant, voulez-vous juste me trouver 11 000 votes? Mais là, c'est une vieille affaire d'il y a 7 ans, quand il n'était pas président. Alors, il y a une vedette porno, Stormy Daniels, qui aurait ou pas aurait une relation avec lui. Bref, il appelle son avocat qui est son fixeur, s'arrange pour que l'avocat lui donne 130 000 $ pour qu'il arrête de parler. Et c'est dans le remboursement des frais à l'avocat, pas dans la bonne colonne au niveau comptable, qu'il y aurait une faute. On appelle ça une espèce de fraude comptable. Et ça me faisait rire quelque part parce que je pensais, Yasmine, à Al Capone, qui a fait tuer plein de gens, qui était véritablement là, un tyran, un marchand de violence terrible. Il n'est pas allé en prison pour rien de ça. Il est allé en prison parce qu'il n'a pas déclaré ses revenus. Et ça, c'est très, très grave. Alors là, est-ce que Donald Trump va tomber sur une affaire de non-conformité comptable? Je n'y crois pas trop. Mais qu'il soit arrêté devant les caméras et tout, ça, c'est une possibilité. La police arrive, les menottes, on l'amène, puis là, il doit s'enregistrer avant d'être relâché. On pourrait aussi lui envoyer un bout de papier par le truchement de son avocat en disant, ben, vous êtes sommé de comparaître pour venir vous enregistrer. Ensuite, il va dire, bon, ben, si je suis formellement accusé d'un criminel à col blanc, vous n'êtes pas un danger pour la société, comme s'il avait commis un meurtre. Donc, retournez chez vous, puis éventuellement, reviendrez pour le procès. Mais dans tous les cas de figure, si jamais il y avait mise en accusation formelle, que ce soit devant les caméras ou pas, il y aura la prise des empreintes digitales, il y aura une prise d'ADN et les fameuses photos de famille. Vous savez, les photos de face
et d'à côté,
profil.
Le mugshot.
Juste, il fallait qu'on aille là. Vous savez, c'est un ancien président des États-Unis, là. Abraham Lincoln a eu cette fonction-là. George Washington a eu cette fonction-là. Kennedy. On est véritablement là. Si un jour il y a un club d'anciens présidents quelque part, ils vont se dire, me semble qu'il y avait un certain oomph à la fonction qui s'est un peu perdu là, dans le cas de Donald Trump. Donc, faut-il le dire, je ne suis pas prêt aujourd'hui à vous dire qu'il est impossible qu'il soit de nouveau président. Alors, on est véritablement dans ce cadre-là. Mais Trump a réussi à monter dans un modèle d'affaires politique extrêmement efficace. Cette idée de la victime et de la conspiration et à date, dans la mesure de ses moyens, ça fonctionne.
Guillaume, restons dans le fabuleux monde parallèle des républicains américains. Il y a cette histoire que j'ai vue passer cette fin de semaine, puis honnêtement, je l'ai relue deux fois pour savoir si c'est une blague ou une mauvaise traduction. Il doit y avoir quelque chose qui ne marchait pas, mais non. C'était la vérité, c'est qu'on veut interdire de parler de menstruation et de faire de l'éducation sur les menstruations aux filles de moins de 11 ans.
En Floride. Et là, donnons un peu là, d'oxygène à M. DeSantis, le gouverneur. Les gouvernements américains fonctionnent très différemment des nôtres. C'est pas une proposition du gouvernement de la Floride, c'est un caractère assez éclaté. Mais il y a des élus de Floride qui, dans leur sous-sol, là, écrivent des propositions de projet de loi, et là, arrivent avec ça à la Chambre et présentent leur projet de loi qui doit être discuté, même si on est à l'étape des sous-comités. Il y a quand même un élu qui s'est dit, il y a un problème tellement grave que si une jeune fille vit une menstruation et qu'elle n'a pas, selon le projet de loi, 11 ans, puis qu'elle pose une question, bien, le professeur n'a pas le droit d'y répondre dans les écoles publiques. Et là, on pourrait se demander, mais dans quelle sorte d'espèce de monde on vit, là? Ressortez vos lectures de la lettre écarlate, retombez dans les dérives les plus folles du puritanisme. Quel problème on veut régler? On est dans un problème, c'est une solution qui n'est pas pour ce problème-là. C'est une solution pour essayer de motiver au possible une base qui pense qu'on donne des cours aux enfants de la maternelle sur comment se comporter au niveau sexuel. Et ça n'a rien à voir avec ça. Alors, peut-être que des débordements comme ça, des exagérations du genre qui vont être ridiculisées, condamnées, qui vont mettre furax bien des gens et bien des parents aux États-Unis, vont dire, ben là, finalement, là, c'est assez. Mais je vous rassure, là, je ne crois pas une minute que ça puisse finir par être une véritable loi en bonne et due forme. Remarquez, rien n'est impossible en ce fou monde, mais on pourrait imaginer que ça va mourir au feuilleton, mais ça a quand même été déposé et c'est discuté dans une assemblée élective d'un pays du G7. Là. On n'est pas en Iran, on n'est pas en Arabie Saoudite, on est dans un pays du G7 et c'est le genre de débat et de préoccupation que l'on a. Et les républicains qui disent, par exemple, au procureur démocrate qui court après Donald Trump pour des non-conformités fiscales en disant « Il me semble qu'il y a assez de crimes pour vous occuper ailleurs. » On pourrait demander aux républicains de la Floride qui s'occupent de ça. Il n'y a vraiment rien d'autre de plus préoccupant que ça dans la vie des familles de Floride, que c'est ça votre sujet et votre priorité. À un moment donné, comme dirait l'autre, trop de démocratie, c'est comme pas assez.
Mais non, mais ça, c'est complètement fou. Puis on a vraiment l'impression d'écouter, de regarder un mauvais film des années je ne sais quand, qui veulent revenir, en fait, où les menstruations sont encore tabous, où les femmes, c'est tabou, puis que dans les écoles, il faut pas parler aux petites filles de l'âge de 10-15 ans de comment fonctionne l'appareil de reproduction féminin. C'est parce que la petite fille de 9 ans, là, qui sait pas qu'est-ce qu'elle a dans les petites culottes dans la cour d'école, là, y a-t-il quelqu'un qui va pouvoir lui expliquer que c'est pas, est pas en train de mourir, est pas en train de se vider son sang, qu'on va juste l'aider ou non? Ah ben non, il faut pas lui parler de ça parce qu'autrement ce serait de l'hypersexualisation des enfants. C'est là où les États-Unis me perdent un peu plus à chaque jour.
Ouais, là-dessus, disons-nous à tout le moins que sur un pays de 350 quelques millions d'habitants, de 50 États, il y a à tout le moins il y a une seule législature où ça se passe, et à tout le moins, c'est un seul élu qui a présenté ça. Mais il y a une vieille marotte, Duplessis disait, il y en a que le pouvoir, là, c'est comme l'alcool, ils portent pas ça. Peut-être que même pour cet élu-là, c'était déjà trop. On verra quelle sera la réaction des autres, parce que c'est là où on verra est-ce que le jugement va prendre sa place, ou il sera, comme Shakespeare disait, parti au grand chemin.
Guillaume Lavoie, on se retrouve demain?
Au plaisir.
Au revoir.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Yasmine Abdel-Fadel. Une main de fer dans un gant de velours. Un vent de fraîcheur qui décoiffe.
Cube Radio.
Mais la job d'un chef, à un moment donné, c'est d'avoir un seul message.
Marie, mon petit.
Quand tu changes de voix tous les quatre heures.
Moi, je trouve ça absolument aberrant.
Steve Fortin.
On n'y va plus avec la compétence, l'excellence. Non, c'est plus ça.
La rencontre.
Mais Steve, je pense que la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est exactement ça.
La rencontre. Fortin, mon petit.
Marie, Steve, grosse semaine en perspective.
Très grosse semaine.
On va avoir beaucoup de stocks à la table. Puis là, on va commencer cette semaine-là à préparer. On est lundi, là, préparant le reste de la semaine parce que dès demain, budget du gouvernement du Québec, va-t-on baisser les impôts? Va-t-on piger dans le fonds des générations? Va-t-on aider les plus vulnérables? Quelles sont vos attentes? Je commence avec toi, Steve.
Ben, mes attentes, en fait, ce serait plutôt dans ce que j'aimerais qu'il ne se retrouve pas dans le budget, mais qu'on va classer dans ce qui va être dans le budget, assurément. Donc, tu évoquais les baisses d'impôts, c'était une promesse électorale. Et puis, même dans la campagne, la très, très timide campagne de la CAQ dans Saint-Henri-Sainte-Anne, tu sais, les promesses de baisses d'impôts étaient là. Oui, on va piger dans le fond des générations. Je trouve que c'est déplorable qu'on le fasse, mais ça va se faire. J'espère en tout cas que le ministre Girard aura des fonds substantiels pour le logement social et la rénovation du parc de logement social existant. On l'a entendu au cours des dernières semaines. C'est pour moi quelque chose de très, très important. Et pourquoi pas aussi... en région, là, puis nous, on n'est pas très loin de la périphérie de Montréal. Hein. Tu sais, quand t'es dans la MRC Papineau, t'es entre Gatineau puis Montréal, mais t'es à mi-chemin à peu près. Puis, il y a beaucoup, beaucoup de gens ici et partout ailleurs au Québec, dans les régions, qui se demandent quand va-t-on de manière substantielle travailler à la régionalisation de l'immigration avec tous les outils et le financement que cela suppose. Et j'aimerais beaucoup qu'on s'attarde à ça avec la francisation, mais en même temps aussi avec toutes les mesures d'aide qu'il faut pour inciter le plus possible aux nouveaux arrivants qui arrivent ici à aller s'installer en région et parfois, comme par ici, pas trop loin de Montréal après tout.
Marie, la régionalisation de l'immigration, au-delà du budget du gouvernement du Québec, qu'est-ce qu'on doit faire avec cet argent-là pour pouvoir régionaliser?
Ben, écoute, c'est une vaste question là, pour pouvoir régionaliser. Écoute, je pense que c'est s'assurer de tu sais, l'enjeu est toujours le même, là, c'est d'accompagner les immigrants quand ils arrivent, puis d'avoir des mesures qui sont attractives, puis s'assurer que ça reste pas dans les qu'ils s'installent pas tous dans les grands centres. Là. Je pense qu'il y a eu des améliorations au cours des dernières années, mais on peut je vais te dire comme sur le bulletin là, peut faire mieux. Si tu me permets, Yasmine, tu sais, il y a peut-être un élément. Tu demandais c'est quoi les attentes par rapport au budget demain. Moi, j'adore ça, hein, les périodes de budget là, c'est en tout cas on prendra le temps à un moment donné d'en parler là, mais tu sais tout ce qui est en arrière de ça, les consultations budgétaires,
c'est le fun.
Tu sais, moi je suis passée par là entre autres comme ministre, mais les consultations budgétaires, tu sais, depuis janvier, les allers-retours, parce que les consultations budgétaires avec les organes, les groupes, les consultations budgétaires avec les ministres, les allers-retours qui sont faits au cabinet du ministre des Finances, puis là quelques jours avant le dévoilement du budget, t'es convoqué comme ministre. Écoute, faut que tu laisses ton cellulaire, tes clés, ton chat, tes enfants, tu sais, qui écoute, tu sais, il faut que tu rentres là, puis tu prêtes serment que tu dévoiles rien, puis et là, tu as le droit de voir finalement la dernière version du budget de ta partie comme ministre. Là, tu vois jamais celle des autres collègues. Puis là, demain, ce qui va se passer aussi, c'est le fameux huis clos, là, où il y a des gens qui vont être enfermés toute la journée sans cellulaire, qui vont avoir accès au fameux budget. C'est plate, mais c'est super.
La bouffe est pas bonne.
C'est super impressionnant quand même, parce que encore là, tu vois, t'as toutes les salles, puis mais tu sais, moi, je me rappelle, il est allé encore là comme ministre. C'est hyper impressionnant. C'est l'année où je dévoilais la politique culturelle. On avait 700 millions de budget qui était alloué à ça. Puis ça m'avait soufflé de rentrer dans la salle où là, t'as des milliers de journalistes qui sont là. Puis là, on dit, ben go, promène-toi, puis va se cromer, puis va faire des mêlées de presse, puis va répondre à toutes les questions qu'il y a sur le ministère de la Culture à ce moment-là. Mais pour en revenir aux attentes, bon, c'est sûr que les baisses d'impôts, c'est un des gros facteurs. Moi, ce qui va être à regarder beaucoup, c'est la question de la santé mentale aussi. T'sais, François Legault a dit qu'il en ferait une priorité, que ça se retrouverait dans le budget. On sait que c'est le parent pauvre depuis longtemps au niveau du réseau de la santé. Je pense que c'est le tiers des gens qui consultent en santé qui consultent pour des raisons de santé mentale. Puis là, on le voit en plus avec les événements des dernières semaines. Post-pandémie, en plus de ça, les besoins sont plus criants que jamais. Il y a une pénurie. En tout cas, il faut qu'il y ait un plan d'action spécifique avec des montants dédiés dans le budget. Je le souhaite.
Steve, au-delà du domaine de la santé, parlons de l'éducation. Je trouve que l'éducation passe beaucoup sous le radar ces temps-ci parce qu'on parle beaucoup de santé, santé mentale, les hôpitaux, les urgences, les infrastructures. Alors que l'éducation, est-ce qu'on doit s'attendre à un réinvestissement massif en éducation?
J'aimerais beaucoup, et c'est drôle que tu parles de ça parce que j'avais marqué dans mes notes récemment, il y a des enseignantes, parce que c'était des femmes que j'avais rencontrées à ce moment-là, qui faisait la grève dans mon coin. J'avais couvert ça pour Radio-Canada. C'est en 2014. Puis, on m'est revenu avec ça, puis j'ai pris part à une discussion où on me rappelait que en 2014, quand les enseignantes et les enseignants ont fait la grève, puis ils sont retournés, on leur avait fait des promesses, puis et de promesses en espoir, on se rend compte que il y a une espèce de, je dirais pas de découragement, mais c'est comme si à un moment donné, on s'était habitué à être déçu. Puis ça, c'est un peu plate parce que dans le système d'éducation en ce moment, on va parler de pénurie de main-d'œuvre, mais il n'y a pas que ça parce que des mesures ont été mises en place pour qu'on soit capable, par exemple, par le biais des maîtrises qualifiantes, il y a toutes sortes de chemins maintenant à l'intérieur du système d'éducation pour que le plus de gens possible accèdent au brevet d'enseignement. Mais il y a plus que ça, c'est dans le parc immobilier lui-même, puis dans la région ici, il y a des écoles primaires qui sont en très, très grand. Je veux dire, c'est le parc immobilier lui-même, il est à refaire. Puis on essaie d'entrer dans le programme là, d'infrastructure à chaque fois. Puis le ministre régional, le député ici, Mathieu Lacombe, encore la dernière fois. Donc, par exemple, dans la petite nation aussi, il y a des directions d'école qui disent on espère, c'est le temps. Là, maintenant, c'est pas normal que notre TES est littéralement dans un placard à balai. Puis les écoles, ils ont 50 ans, puis on a besoin de rénover et tout ça. Donc, j'espère qu'on va s'attaquer à ça au lieu eux-mêmes, puis en même temps aussi aux revendications de longue date des enseignantes et des
mais
enseignants.
Mais encore là, pourquoi à chaque fois qu'on parle d'argent ou d'investissement supplémentaire dans les écoles, ça va nécessairement avec une augmentation de la facture des salaires des professionnels? Or, je sais pas si vous avez vu dans le Journal de Montréal en fin de semaine, les enfants qui arrivent le ventre vide à l'école, là, ça fait pas des élèves ben trop forts, là, tu sais. Fait que le service directement à l'élève, on est moins là-dedans sur les bibliothèques, les livres, le transport, la nourriture. On est beaucoup dans « Ah, si on a de l'argent, ça doit aller en salaire. » Est-ce que c'est le bon rattrapage à faire?
On vient de Jean-François Lisée avec sa proposition à l'époque sur les dîners et tout ça. Puis je vois qu'en France, ça se fait beaucoup. Puis là, au Canada...
Oui, les fameuses cantines. Mm-hmm. Ben, oui. En éducation, moi, je pense que dans les deux grandes missions de l'État, là, que ce soit la santé ou l'éducation, demain, ce qu'il faut déjà regarder, c'est est-ce qu'il va y avoir des augmentations qui vont juste permettre déjà de maintenir ce qui se fait. Parce que là, justement, si tu veux mettre de l'argent dans les impôts, des baisses d'impôts, est-ce que ça va être seulement pris dans le fonds des générations ou ça va être pris à même le budget? Puis le ministère de l'Éducation fait pas exception par rapport au... Il y a de l'inflation aussi qui fait que les coûts augmentent. Donc, déjà, il faut qu'il y ait de l'augmentation des dépenses pour pouvoir maintenir le même rythme. Après ça, tu as tout à fait raison que la question des cantines, je suis une fervente. Là, j'ai fait une partie de mon secondaire en France, puis il y avait des cantines à l'école. Tu sais, mes petites sœurs étaient au primaire, les deux. Moi, j'étais au secondaire. Puis ça fait partie de tu sais, tu vas à l'école, puis c'est des repas... Au-delà du fait que c'est ultra équilibré, c'est fantastique, génial, mais c'est surtout que tu t'assures que tes enfants qui sont à l'école mangent comme il faut. Donc, ça a un impact des effets sur la concentration des élèves. C'est absolument fantastique. Puis ça, c'est quelque chose... c'est pas une mesure...
On peut-tu se le permettre?
J'allais dire, c'est pas une mesure qui coûte super cher. L'enjeu que t'as, c'est que la plupart des écoles ont pas de cafétéria, ont pas le service, ont pas les infrastructures, ont pas... Tu sais, c'est pas un truc que tu prends ta baguette magique d'un matin, on débloque, je sais pas moi, 40 millions, puis go, on met en place genre des petits déjeuners, mais là, ce serait des dîners dans les écoles, mais il faut que t'aies l'infrastructure.
Lançant l'exemple, je sais pas si vous connaissez le service, là, mais moi, je suis membre de ce service-là, là, je suis cliente, en fait. Le service qui s'appelle le lunch à l'école primaire de ma fille où je paye par mois, puis je choisis son menu tous les jours, puis elle reçoit son repas chaud, son cabaret de repas chaud à tous les jours. C'est un service de traiteur pour les écoles. Mm-hmm. Pourquoi obliger d'avoir une cuisine à l'intérieur de l'école?
Il y a plein de solutions. Puis après, c'est pas quelque chose que t'es obligé de mettre en place mur à mur dans une première étape. Tu sais, tu peux cibler X% des écoles ou juste le primaire, puis après ça, l'élargir au secondaire si nécessaire. Mais ça, c'est certainement... Ah, moi, tu sais, je veux dire, là, tu prêches à être convaincu sur le fait que c'est certainement un bon endroit pour investir de l'argent, là.
On a des codes de défavorisation pour les écoles, tu sais, les 9 puis les 10, là. On le sait où il y a des gens qui mangent pas à leur faim. Puis je suis content que tu parles de ça, Yasmine. Ici, c'est Bergeron Traiteur, par exemple, qui le fait. Puis je veux dire, oui, tu t'abonnes, tu payes ta carte repas, puis c'est une bonne solution. Mais malheureusement, aussi, dans un milieu comme ici, la deuxième MRC la plus pauvre du Québec, ben les gens peuvent pas se le permettre.
Non,
parce qu'on remet ça sur le dos des parents. Il faudrait que ce soit institutionnalisé, mais... Quand je te dis qu'on parle du parc immobilier, là, dans certains cas, c'est vraiment, vraiment criant. Puis on rouvre les fenêtres, je veux bien pour l'air, puis on a des airs climatisés, on essaie de faire fonctionner ça quand il fait trop chaud ou quand il fait trop froid. Mais tu sais, il y a tellement à faire que des fois, je me dis, mais par où on va commencer? Ben c'est ça. C'est pas juste la hausse des coûts de système, puis hausser en fonction de l'inflation. Évidemment. Ça prend une réinjection de fonds massive, mais comment on va faire ça?
On va tout découvrir ça demain et on va probablement aller de manière plus approfondie dans ce que ce budget nous réserve mercredi. Marie, Steve, un plaisir de vous parler
à demain.
Comme à chaque jour.
Ex-conseillère politique, et ça fait bien notre affaire. Yasmine Abdel-Fadel.
Vous avez vu ce matin 275 000 $ qui étaient dépensés par des voyages pour ce qu'on appelle la diplomatie parlementaire. C'est quoi la diplomatie parlementaire? Ce sont nos assemblées législatives, donc l'Assemblée nationale au Québec, la Chambre des communes à Ottawa, qui va déléguer certains députés, donc des élus, à des forums d'échange. Et là, on parle de l'Association parlementaire francophone qui a tenu une rencontre statutaire, notamment à Tahiti, à laquelle ont pris part des députés du Québec et d'Ottawa. C'est quoi que ça mange en hiver, la diplomatie parlementaire? Ça fait quoi? Ça fait avancer quel sujet, quel enjeu? Et on y gagne quoi à dépenser cet argent? J'ai pensé en parler avec Jean-Pierre Charbonneau, ex-ministre péquiste de la réforme des institutions démocratiques, ex-président de l'Assemblée nationale. Et c'est à ce rôle que j'aimerais savoir, monsieur Charbonneau, est-ce que ça sert à quelque chose, la diplomatie parlementaire?
Oui, ça sert à quelque chose. D'ailleurs, la raison pour laquelle ça sert à quelque chose, c'est que, et la preuve, en fait, c'est que la plupart des pays démocratiques, et même parfois même des pays moins démocratiques, s'intéressent à la diplomatie parlementaire. En fait, il y a deux sortes de diplomatie. Les gouvernements, à travers leur ministère des Affaires extérieures ou étrangères, et leurs ministres, et leurs ambassades, établissent des liens de collaboration, de contact et de renseignement avec une multitude de pays et de gouvernements. Et puis, les assemblées législatives, donc les pouvoirs législatifs, font la même chose. Et cette diplomatie-là, contrairement à celle du gouvernement, qui est évidemment partisane dans la mesure où elle prend la couleur du gouvernement qui est au pouvoir, les diplomaties parlementaires se font toujours avec une couleur non partisane, c'est-à-dire que les députés de toutes les formations politiques, en principe, participent à ces échanges dont vous parliez. Moi, j'étais président de l'Assemblée nationale, donc j'étais responsable de la diplomatie parlementaire au Québec pendant 6 ans et demi. Et puis, en plus, je suis devenu membre, en fait, président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. C'est de celle-là dont vous parliez tantôt. Et l'article dans le Journal de Montréal ce matin fait état des dépenses, des frais de voyage et de rencontre de cette réunion qui a eu lieu à Tahiti.
275 000 $ M. Charbonneau, est-ce que ça vous choque?
Pas nécessairement, mais la question qu'on peut se poser, et je vais vous l'avouer, c'est la suivante, c'est est-ce qu'on peut faire de la diplomatie parlementaire ou de la diplomatie intergouvernementale uniquement par télétravail ou de façon virtuelle? Autrement dit, est-ce que les ambassadeurs ne doivent maintenant se rencontrer que de façon virtuelle? Est-ce que les membres des parlements qui ont des dossiers de collaboration, qui ont des projets en commun, qui ont des programmes de coopération, ne peuvent que se rencontrer dorénavant que puis virtuellement? Ça, c'est une question. La deuxième, c'est clair que si on prend les destinations les plus exotiques, on est toujours un peu surpris, puis peut-être même scandalisé par le coup.
Ben, un peu envieux, j'ai l'impression.
Oui, un peu aussi. Ça coûte moins cher d'aller à Paris ou encore à Ottawa, parce que le Parlement canadien est membre de cette Assemblée parlementaire de la francophonie. Alors, pour les députés québécois, c'est évident que quand c'est à Ottawa, qui fait ça à Ottawa ou qui fait ça à quelque part dans une des provinces du Canada, dans un État fédéré du Canada, ça coûte moins cher. Mais la question qu'on peut se poser, c'est si, par exemple, la référence, c'est que nous, il ne faut pas que ça nous coûte beaucoup. Alors, la conséquence de ça, c'est que pour les pays, par exemple, d'Afrique francophone, pour les autres endroits, ben eux autres, si on les invite de venir ici, c'est eux qui vont payer. Alors, on est toujours pris dans un dilemme. Quel est le rapport qualité-prix qu'on est prêt à assumer de part et d'autre pour que les liens internationaux se développent, que les amitiés internationales entre les dirigeants politiques. Les dirigeants politiques, c'est pas juste les ministres puis les chefs de gouvernement, c'est aussi les députés, c'est aussi les présidents d'assemblée. Alors, quel est le prix qu'on est prêt à payer? Moi, je pense que on peut organiser un certain nombre d'activités de collaboration interparlementaire, de diplomatie parlementaire de façon virtuelle, mais on ne peut pas toujours passer juste par des réunions par Internet, là, tu sais, ou par Skype, ou par Zoom, ou par Teams. Il faut à un moment donné se voir, se parler et développer des alliances puis des propositions importantes. Et quand on regarde les sujets qui sont élaborés par et abordés dans ces rencontres-là, on se rend compte que c'est important.
Mais est-ce qu'il devrait y avoir un mécanisme de reddition de comptes de la part des députés qui participent à ce genre de forum et qui viennent dire qu'est-ce qu'on devrait avancer là-dedans?
Ben, sa réponse, c'est oui. Puis moi, quand j'étais président de l'Assemblée, j'ai institutionnalisé un rapport de mission. C'est-à-dire qu'après qu'une mission ait été faite, il fallait que rapidement les fonctionnaires et les députés ou le président du groupe politique, en fait, parlementaire qui avait participé à l'émission, fassent un rapport et ce rapport-là soit déposé à l'Assemblée nationale. Et idéalement, ce que j'aurais souhaité, c'est que même une commission parlementaire se saisisse des recommandations ou des conclusions ou des informations qui sont transmises. Je ne sais pas si on a donné suite. Moi, quand j'étais président de l'Assemblée, c'est ça qui se faisait. Par la suite, est-ce que ça s'est poursuivi? Est-ce qu'actuellement, le président ou la présidente de l'Assemblée nationale exige... parce que c'est le président ou la présidente qui est le patron ultime de la diplomatie parlementaire au Québec. Alors, si le président décide qu'il doit y avoir un rapport, que le rapport doit être déposé le plus vite possible, rendu public, y compris avec les coûts, alors... Mais le problème, c'est aussi le suivant, c'est que pour certains médias ou certains journalistes, la seule chose qui compte et qui est intéressante de mettre en relief, c'est le coût des voyages.
Ben oui.
Est-ce que le contenu des discussions, les sujets qui sont abordés, vous les retrouvez dans l'article de ce matin, pas toutes.
Non, mais ce qu'on retrouve dans l'article de ce matin, par contre, c'est aussi des citations de Québec solidaire qui disent que c'est pas le genre de politique qu'eux veulent faire. Ce qui contribue.
Ça, c'est de la petite politique partisane. Moi, je m'excuse pour les gens de Québec solidaire, mais ça, c'est pas être solidaire avec les autres députés de l'Assemblée nationale. Parce que la diplomatie parlementaire, c'est tous les partis qui sont invités et qui doivent participer à l'exercice. Et là, on veut bien essayer de se donner belle conscience, puis avoir une réputation au-dessus de toute soupçon. Puis tu sais, nous autres, on fait pas ça, ce genre d'affaires-là. Mais je m'excuse, mais c'est pas comme ça qu'on fait avancer les choses dans une société. Et on peut pas se dissocier de l'action internationale de l'Assemblée nationale du Québec quand on est un député de l'Assemblée nationale du Québec et qu'on est une formation politique qui a maintenant 12 députés à l'Assemblée nationale. Tu sais, il y a un bout, là, à un moment donné, faire de la partisanerie et d'essayer de se penser meilleur ou de se présenter meilleur que tout le monde. Je le dis en toute amitié parce que les gens de Québec solidaire, je les connais, je collabore avec eux régulièrement comme président du mouvement Démocratie Nouvelle, mais ça, ce matin, quand j'ai lu ça, je trouvais que c'était un peu fort. Je trouve que finalement, dans ce genre d'affaires-là, tous les députés, tous les partis sont concernés. Mais là, ce qui était choquant aussi ce matin, c'est d'entendre des députés du Québec ou d'ailleurs qui disaient qu'ils ne savaient pas trop ce qu'ils faisaient là-bas. Et ça, c'est un autre des problèmes. Quand moi, j'étais président de l'Assemblée, ce que j'exigeais, ce que je voulais, c'était qu'on choisisse les députés qui s'engageaient pendant des années à suivre certains dossiers. Mais le problème, c'est que les whips des partis voulaient que les voyages soient accordés et faits par les députés selon leur désir. Oui. C'est-à-dire, dans le fond, on utilisait ça comme des récompenses pour ceux qui n'ont pas été nommés ministres.
Mais non, c'est supposé être de la job, ça. C'est supposé être du travail.
Oui, puis il y a des dossiers à approfondir, il y a des discours à tenir, il y a des sujets à aborder. Il y a des, tu sais, il y a des participations à des réunions qui doivent être préparées. Et alors, mais si finalement la diplomatie parlementaire sert à des partis politiques, puis aux whips des partis, puis aux dirigeants des partis, pour dans le fond récompenser
un prix de consolation là.
Oui, c'est ça. Alors là, finalement, on dénature la diplomatie parlementaire. Puis là, ben, finalement, ça a l'air fou. T'sais, autrement dit, il y a un député qui s'en va en mission, que ce soit à Paris, à Ottawa ou à Tahiti, puis qui ne sait pas ce qu'il fait là.
Il n'y a pas d'affaire à aller là.
Il n'y a pas d'affaire à aller là, puis c'est scandaleux d'une certaine façon qu'on ait été pris à dépenser des sous pour quelqu'un qui ne sait même pas ce qu'il va faire là.
Jean-Pierre Charbonneau, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Ça m'a fait plaisir.
Vous écoutez Yasmine Abdel-Fadel.
Cube Radio. Cube Radio.
Cube Radio. Autrement dit, Cube Radio. Cube Radio.
En direct à LCN.
On rejoint tout de suite Yasmine Abdel-Fadel dans les studios de Cube Radio. Bonjour Yasmine.
Bonjour Sylvain.
Bon, on a parlé depuis longtemps de la reconnaissance des diplômes des médecins, notamment des infirmières étrangères, qui peinent finalement à trouver leur emploi, à exercer leur profession pour toutes sortes de raisons. Certains disent le corporatisme des associations professionnelles, donc l'obligation de sécurité quand même, de compétences. Eh bien, le chef conservateur, donc, a une solution, lui, faisons passer des examens et laissons tomber cette bureaucratie. Et s'ils passent, ils rentrent, ils deviennent professionnels. Qu'est-ce que tu en penses?
L'intention est bonne. L'intention derrière de pouvoir accélérer le fait que des médecins et des infirmiers, infirmières qui viennent d'ailleurs dans le monde puissent rapidement se mettre à contribuer à la société en manque de médecins et de personnel soignant est bonne. Personne ne peut, enlever ça au chef conservateur de vouloir régler un problème, un enjeu qui est important. Le problème qui se pose, c'est que c'est juste pas de compétence fédérale. Et j'essaie de comprendre comment Pierre Poilievre, chef du Parti conservateur, un parti supposé être décentralisateur et respectueux du champ de compétences des provinces et du fédéral, veut mettre les deux mains dans les champs de compétences provinciales. Les ordres professionnels et le code des professions, c'est de compétences provinciales. Qu'est-ce qu'il va dire aux ordres professionnels? « Oh, regardez, votre province là, est pas capable de vous gérer. Moi, je vais vous dire quoi faire puis quel examen vous allez devoir passer. Puis, de toute manière, vous allez tous vous harmoniser avec le reste des provinces. Pas besoin que de passer par les champs de compétences provinciales. » On croyait entendre Justin Trudeau. Il y a à peu près un mois et demi, deux mois, on parlait des normes de CHSLD d'un océan à l'autre, puis on déchirait tous notre chemise en disant que le fédéral ne doit pas s'immiscer dans les champs de compétences du Québec et des provinces en général. Pourquoi, là, on laisse Pierre Poilievre parler de ça sans problème?
Bien, justement, Pierre Poilievre propose, entre autres, cet examen. Et si vous passez l'examen, vous pouvez exercer votre profession dans toutes les provinces.
Et c'est incompréhensible parce qu'il y a des ordres professionnels qui sont propres à chaque province qui déterminent l'admissibilité à la profession de ces candidats. C'est une méconnaissance un petit peu de comment fonctionne le code professionnel, la manière avec laquelle Pierre Poilievre présente le dossier, parce que les gouvernements, que ce soit le gouvernement du Québec ou le gouvernement du Canada, reconnaissent les diplômes. Les diplômes ne sont pas non reconnus par les gouvernements, ils sont reconnus. C'est accéder à la profession et aux titres réservés qui sont de ressort des ordres professionnels et les ordres professionnels doivent s'assurer au nom de la protection du public que la personne a toutes les compétences nécessaires avant de commencer à pratiquer et heureusement qu'il y a cette vérification-là. Certains diront que c'est du corporatisme professionnel et je dirais probablement que oui, il y en a. Mais chose certaine, je préfère que les ordres professionnels continuent de faire les vérifications nécessaires avant de donner les autorisations d'exercice, surtout d'un médecin ou d'une infirmière. Mais là, qu'on vienne dire, que le fédéral vienne dire « Oh, moi, je veux tout vous régler ça, là, les provinces, vous savez pas comment gérer l'accès à des professions comme médecin et infirmier. On va faire un examen, puis d'un bord comme de l'autre, vous allez tout passer ça, puis ça va être correct. » J'aurais aimé voir plus de chemises déchirées sur les compétences provinciales puis le respect des champs de compétences provinciales que ça. J'ai l'impression qu'on se dit « Bon, encore un Pierre Poilievre qui va faire des promesses qui vont jamais se réaliser. »
Ça va peut-être venir, on va leur donner une chance. Yasmine, un autre dossier en Floride. Il semble y avoir vraiment un glissement là, vers des interdits au niveau des publications. On le sait, tout ce qui est question de genre dans les écoles. On bannit toute la littérature là-dessus. Et là, il y a un républicain qui veut interdire aux professeurs d'expliquer le cycle menstruel aux élèves du primaire, notamment aux jeunes filles qui font face à cette réalité-là.
À ce qui paraît, Sylvain, en Floride, à 11 ans, c'est l'âge auquel on peut apprendre c'est comment fonctionne le cycle menstruel d'une femme. T'sais, à 11 ans, ils ont décidé en Floride là, que c'est à partir de ce moment-là où on peut commencer à parler de menstruation et de règles. Puis les filles qui, malheureusement ou heureusement, plus malheureusement qu'heureusement, ont leur menstruation plus tôt, à 9 ans, à 10 ans, ben qu'elles se débrouillent. Nous, on ne veut pas en entendre parler, on ne veut pas éduquer, on ne veut pas sensibiliser nos jeunes filles et nos jeunes garçons sur une réalité qui va rattraper toute femme à la puberté, d'avoir ses règles. Je trouve que c'est un recul majeur. Écoute, on n'est pas en train de parler d'un pays rétrograde ici, d'un pays qui est en train de se battre contre les droits des femmes. On n'est pas en train de parler de l'Iran ou de l'Arabie saoudite ou du Yémen ou de n'importe quel autre pays contrée lointaine qu'on aime pointer du doigt. On est en train de parler de notre voisin du Sud, là, qui ne veut plus qu'on parle du cycle menstruel des filles en bas de l'âge de 11 ans. C'est complètement surréaliste. J'aimerais ça qu'on puisse aussi déchirer notre chemise. Je parle beaucoup de déchirer de chemise, mais des fois, ça met hors de moi de savoir que ça puisse se passer tout proche de nous, puis qu'on fasse rien, puis qu'on se dise, ils vont finir, ils se rendent compte que ça marche pas ce qu'ils disent, puis que c'est une réalité biologique pour les femmes et reculer. J'ai l'impression qu'on est en train de vivre petit à petit des petites pertes pour les droits des femmes, le droit de parler finalement de ce qui caractérise les femmes, notamment de juste apprendre à sensibiliser une femme sur son cycle menstruel et les jeunes filles de dire qu'il y en a pas de problème, faut pas être honteux de ça, c'est normal, c'est biologique, c'est naturel. Et d'enlever ce tabou-là, mais faut croire que les républicains et américains veulent ramener toujours la femme à il y a 50, 60 ans en arrière.
Et je te soumets que ce sont des hommes, les républicains, qui souvent déposent ce genre de projet de loi.
Eux qui s'y connaissent beaucoup, Yasmine, visiblement. Merci.
Merci, Yasmine.
Et voilà qui conclut l'émission d'aujourd'hui. Je vous laisse avec ma collègue Sophie Durocher. Je vous donne rendez-vous dès demain, 13h30.
Cube Radio.